Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre, les rediffusions d'été, c'est tout de suite. Zelda Fitzgerald, 1900-1948. Une vie, une œuvre pour ses rediffusions a décidé de jouer au jeu des pères, pères d'amis ou d'amoureux, un compère le samedi et sa moitié le dimanche. Alors aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celle qui était écrivaine, qui était belle et qui était folle, et dont Francis Scott Fitzgerald était amoureux. De celle surtout qui était douée, mais ça, tout le monde l'a oublié. Aujourd'hui, Zelda, et demain, ce sera l'histoire de celui qui était son écrivain de mari, Francis Scott Fitzgerald. Sur les photos, ce qu'on remarque, ce sont ses yeux de chat. Sur les plus anciennes, elle minaude, comme une héroïne de film muet, coupe à la garçonne, raie sur le côté et des dents comme des perles. Ensuite, elle pose, boudeuse, en jeune épousée, aux côtés de Scott, qui disparaît tellement elle imprime la pellicule. Bientôt, les traits sont plus épais, le visage parfois gonflé, l'air moins souriant, sans doute trop d'alcool ou trop de médicaments. Et on cherche sans succès les traces de folie dans les clichés. Parfois aussi, entre Scott et Zelda, on voit une petite fille à l'air perdue ou consternée. Toujours bien habillée entre ces deux gravures de mode de parents, sur une photo, ils font tous semblant de rire et de danser devant un gigantesque sapin de Noël. Mais la photo est triste à pleurer. Alors il faut redécouvrir Zelda Fitzgerald dans ce documentaire de Françoise Esteb, réalisé par Isabelle Huel.
Lorsque j'étais en Alabama, ça m'a frappé. Ces ciels sont assez, comment dire, bleu uni, d'un bleu très très beau, très profond, presque un bleu marine. Et puis tout à coup, sans prévenir, vous avez 19 tornades qui arrivent dans la nuit et qui ravagent des villes entières. Et j'ai trouvé que oui, les ciels d'Alabama, c'était vraiment Zelda pour moi. Et je me souviens de ce que disait Scott de sa jeune épouse quelques temps après leur mariage. Il disait à ses amis, j'ai épousé un tourbillon, une tornade, justement.
Quelque chose dans les années 20 se cristallise là, dans la personnalité de Zelda et de Scott. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois un rêve de bonheur et les prémices d'un cauchemar. C'est à la fois la lumière éclatante de la Côte d'Azur et cet air de désastre qui vient. La beauté, la jeunesse, la richesse, l'amitié, l'amour confinent à la ruine, au suicide, au désastre le plus entier.
On a dit d'elle qu'elle avait l'air d'une indienne ou d'une sorcière. Et l'écrivain Dos Passos, en 1924, dira « J'avais été confrontée à une fissure essentielle de son processus mental qui devait avoir des conséquences si tragiques. Bien qu'elle fût si jolie, j'avais aperçu quelque chose qui m'effrayait et me repoussait, même physiquement. » Et il est évident que ce n'était pas une beauté classique, déjà. Elle avait beaucoup de charme. Elle s'habillait de façon originale, ce qui plaisait beaucoup aux Murphy, ces esthètes américains. Et en même temps, il y avait quelque chose, les gens le remarquaient, de presque fou, déjà, dans son regard, de presque annonciateur de ce qui allait lui arriver.
The most immoral young lady I have ever seen.
Galloway? Yes? Yes, he would be honored if he would attend his little party tonight.
Zelda, c'est une héroïne d'un roman de la fin du 19e siècle, un roman américain, et qui s'appelle La Salamandre. Et il se trouve que Minnie, la maman de Zelda, avait adoré ce roman. Et dans le roman, la Zelda en question, dite la salamandre, est une danseuse, une danseuse gypsy. Et c'est étonnant à plus d'un titre, parce que bon, Zelda voudra devenir danseuse, c'est vraiment quelque chose qu'elle pratiquera jusqu'à manquer de peu de devenir une danseuse professionnelle. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que la salamandre est cet animal qui est censé traverser le feu sans se brûler. Et le feu est quelque chose qui sera présent en permanence dans la vie de Zelda. Il y a ces jeunes gens, ces jeunes pilotes qui se crachent en avion pour avoir voulu la séduire avec des loopings un peu trop audacieux. Et leur avion part en flammes. Donc voilà, elle fait mourir, si on peut dire, ses prétendants dans les flammes. Il y a l'incendie qu'elle déclare dans la maison quelques années plus tard, leur maison de la paix. Et puis voilà, plusieurs incendies, comme ça, plusieurs feux. Et à la fin, il y a sa mort à elle, dans l'incendie de l'hôpital psychiatrique d'Asheville.
Zelda Fitzgerald, roman, par Françoise Esteb et Isabelle Huel. Zelda, un prénom prémonitoire, une vie de cygne, festive, folle et tragique, qui se lit comme un roman. À la recherche de sa propre identité artistique, dans une lutte ardente pour affirmer son existence au sein de son couple mythique, dans cette énergie inlassable pour dominer sa vie, puis pour maîtriser son esprit devenu incontrôlable, Zelda l'incandescente va se consumer dans une quête sans issue. Une vie comme un roman qui, à travers ses frivolités, ses délires et ses souffrances, dit la recherche effrénée du bonheur, le désenchantement d'une époque, la vanité de toute existence.
Elle naît en 1900 et c'est la petite dernière d'une famille traditionnelle du Sud qui autrefois avait eu des esclaves en fait.
Elisabeth Bouzon-Villers.
C'est amusant, on pourrait penser à Zelda au début de sa vie. Donc des décennies après, elle ressemble un peu à l'héroïne de D'autant en emporte le vent. Une jeune fille qui a du caractère, qui vit dans un Sud traditionnel et qui est très admirée. Une petite révoltée, en fait. Donc, en cela, elle va être, quand elle deviendra une jeune fille, elle sera cette jeune fille qu'on a appelée en anglais la flapper, donc en français la garçonne. Et elle va être effectivement emblématique de ce mouvement, de cette nouvelle femme moderne de l'époque, donc qui sera une adolescente qui sort beaucoup, qui est sportive, qui fume. Peut-être qu'il y aura une bicyclette et plus tard une automobile qui écoute du jazz. Donc c'est ça, la flapper. Donc c'est une jeune femme qui espère se réaliser d'une autre façon que ses ancêtres qui restaient à la maison et étaient principalement des épouses et des mères. Et chez Zelda, on a constamment ce désir, semble-t-il, d'indépendance, de nouveauté. On le trouve dans sa vie et dans ses écrits également.
Moi, je suis resté un mois en Alabama et même si c'était presque un siècle plus tard, j'ai compris pourquoi Zelda voulait fuir absolument cet endroit, parce que c'est une grande tristesse. Je parlais des ciels bleus. Des ciels bleus, on croirait que le mot blues a été inventé à cause de ces ciels bleus, justement. Il y a une sorte de pesanteur, de grande rigidité. Donc c'est ça, ce pays d'Alabama, c'est une terre très très dure.
Et le père de Zelda, le juge, oui, était un homme très austère.
Très austère, très conservateur.
Gilles Leroy.
Il se couchait à 6h du soir. Donc il n'était pas là pour regarder qui venait voir ses filles sous la véranda. Et Minnie, elle, la maman, a été sans doute beaucoup plus complice des frasques de sa fille. Je crois qu'elle devait vraiment l'amuser.
Je crois que tout vient de la mère. La mère de Zelda était un personnage incroyable.
Jacques Tournier.
Zelda était la dernière fille, quand elle est née, le père, le juge Zahir, était trop vieux, n'a pas voulu s'en occuper, surtout qu'il a tout de suite, elle a été une enfant très très vive et très animée, donc il a complètement confié Zelda à sa mère. Sa mère a été plus qu'amoureuse, enfin elle a été dévorée, sa fille, comme ça, etc., ne voulait pas la lâcher, ne la sevrait qu'à 4 ans, alors que et l'a accompagnée, a toujours voulu qu'elle danse, qu'on la voit, qu'elle soit la star de Montgomery, parce que quand on dit elle danse, c'était pas du tout les danses de distraction, etc., c'était vraiment de la danse classique, elle faisait des pointes, etc., elle a vraiment appris ça, et la mère était quelqu'un américain qui avait en elle une espèce de regret de ne pas avoir été la poétesse qu'elle était quand elle était jeune. Et quand elle voyait Zelda danser, écrire, qu'on parlait d'elle dans les journaux, etc., elle avait comme une espèce de renouveau d'elle-même, en fait. Elle la regardait comme si c'était elle qui, tout d'un coup, avait réussi ce qu'elle avait voulu faire.
Elle jouit d'une grande liberté comme enfant, hein. C'est assez étonnant, ce garçon manqué, parce que c'est vraiment un casse-cou, une fillette casse-cou qui monte sur les...
Elle peut tout se permettre.
Et elle se permet relativement tout, oui, vraiment, même jusqu'aux limites, quoi, parce qu'elle veut surpasser les garçons. C'est quelque chose qu'on retrouvera dans sa vie de femme adulte. Elle veut, en tout cas, les égaler, sinon les surpasser. Et elle fait donc des exploits... des exploits physiques, on va dire, qui sont aux limites du danger, oui.
Et des provocations aussi.
Ensuite, bon, il y a les provocations.
Mais qui pour l'époque sont assez incroyables.
Oui, c'est très incroyable, et surtout dans ce milieu-là.
Sa mère l'aurait laissé faire n'importe quoi, enfin, pense que... Ah oui, il me semble. Enfin,
sauf le mariage avec Scott, quand même.
Ah ben, le mariage avec Scott, c'est parce qu'elle n'avait... Scott n'avait pas d'argent. C'est-à-dire que quand ils se sont fiancés... Et lui, il était dans un camp, il était militaire, il était lieutenant, et il s'entraînait. La guerre n'était pas complètement finie en Europe, et on continuait à entraîner des soldats américains pour les envoyer en Europe. Donc Scott, normalement, si l'armistice n'avait pas été signé en 19, serait parti. Quand il a cherché une situation à New York et qu'il a trouvé juste une petite place dans une agence de publicité, alors la mère a dit, mais non, ça, il n'en est pas question, surtout il gagnait rien, enfin, je veux dire. Et puis finalement, les fiançailles ont été rompues. Parce que la mère a dit, il n'en est pas question. Et quand il a eu son premier succès de librairie, que L'Envers du Paradis a été publié, et que c'est tout de suite devenu un livre dont on a parlé, et surtout qu'on a vendu, à ce moment-là, il a refait sa demande, et la mère a dit, bon, cette fois, tu peux l'épouser. Mais il n'a pas été à Montgomery, c'est elle qui est venue. Et ils se sont mariés tous les deux, tout seuls, à New York.
Ce qui m'a profondément frappé, c'est leur extrême jeunesse, c'est-à-dire que ce sont l'un et l'autre des gamins. De Zelda a 17 ans, lui en a à peine 20. Ce sont des gamins très, très ambitieux qui ont vraiment une volonté de se dépasser dans leur vie, de ne pas épouser la trajectoire annoncée. J'aime bien les personnages comme ça. Je veux dire par là que Zelda, elle était programmée pour épouser... Un fils banquette qui est devenu le numéro 3 des États-Unis, le porte-parole de la Chambre des représentants. C'était ça son destin à Zelda, et elle a choisi tout autre chose en choisissant ce garçon bohème déclassé qu'est Scott. Et ce qui me frappe, c'est il y a quelque chose de très moderne dans la façon dont ils s'associent. Je fais dire à un moment dans mon roman, je fais dire à un psychiatre, vous ne vous êtes pas marié, vous avez signé un contrat de publicité. Et c'est vrai que je crois, comme souvent les très jeunes gens qui s'épousent tôt, très tôt, il y a malentendu, et ce qu'ils appellent l'un et l'autre l'amour dans leurs lettres, c'est assez frappant de voir comme c'est déjà très un discours programmatique, quoi. Je veux dire par là que Zelda exprime clairement à Scott qu'elle veut bien l'épouser, mais à condition qu'il soit vite riche et célèbre, ce qu'il va devenir effectivement en un an.
Les fleuves de New York balançaient des lumières le long des berges comme des lanternes suspendues à une corde. Les marais de Long Island étiraient le crépuscule en une bleue campagne romaine. Des buildings scintillants diapraient le ciel et en faisaient un couvre-pied lumineux en patchwork. Des reliquats de philosophie, des bribes et des morceaux de clairvoyance, des restes usés d'imagination, se suicidaient dans le crépuscule sentimental. Les marécages s'étendaient, noirs, plats, rouges et criminels, le long de leurs rives. À travers les labyrinthes sentimentaux du jazz, ils secouaient la tête de droite à gauche et se faisaient signe à travers la ville, corps aérodynamique surmontant la proue du pays, comme ces petites figurines en métal sur le bouchon de radiateur d'une voiture rapide.
Ils commencent leur vie de couple à New York avec des facéties sans cesse.
Elisabeth Bouzon-Villers.
Ils sont même rejetés de l'hôtel où ils passent leur lune de miel parce qu'ils sont trop agités. Beaucoup d'alcool est consommé. Ils prennent les taxis et apparaissent sur le toit, aux fenêtres, etc. Ils mènent une vie désordonnée et au début très amusante. C'est un jeune couple très en vue qui incarne cette génération de l'entre-deux-guerres qui veut s'amuser avant tout, avec souvent ce slogan « vivre rapidement, mourir jeune et présenter un beau cadavre ».
Tout à coup, l'individu naît aux États-Unis, et vraiment, Zelda et Scott sont le symbole de cette naissance de l'individu. Je veux dire par là que jusque-là, la littérature américaine est une littérature pionnière, de pionnier. Hein, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la construction de la nation américaine, c'est la conquête, et c'est l'unité. Et on est là-dedans jusqu'à Walt Whitman, en fait. Hein, et tout à coup, avec cette jeune génération qui incarne de façon frappante Scott et Zelda, il n'est plus question de ça. On ne croit plus en la valeur supérieure du pays. Dieu, on ne peut pas dire qu'il montre beaucoup de religion ni l'un ni l'autre. Hein. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut s'accomplir soi-même, faut réussir sa vie. Et dans cet accomplissement, il y a peut-être des moments où effectivement la tête leur tourne. Après, bon, on pourrait essayer de parler d'un point de vue peut-être plus psychologique ou psychanalytique, c'est-à-dire que Scott, quand même, traîne d'énormes tourments, une énorme névrose. On parle toujours de la folie de Zelda, mais on oublie quand même de parler de cette névrose de Scott qui lui fait boire 3 litres de gin et 30 canettes de bière par jour. Enfin, c'est quand même fou. Hein. Et puis Zelda, bon, on... Alors, est-ce que ce côté garçon manqué et casse-cou dont je parlais tout à l'heure était la mort, c'était le signe avant-coureur de son mal à elle, j'en sais rien, mais il se trouve que ça va, comme souvent les maladies ou les troubles mentaux, ça se révèle vers 20, entre 20 et 25 ans, et c'est précisément ce qui va arriver à Zelda. Mais moi, je crois que quand deux personnes s'attirent, lorsqu'on tombe amoureux, on tombe amoureux autant pour des raisons positives, solaires, que pour des raisons négatives et ténébreuses. Je crois que dans le fait de tomber amoureux, de la façon dont ils sont tombés amoureux très jeunes, ce sont deux inconscients qui s'épousent autant que deux consciences. Et il est vraisemblable, enfin je les ressens comme ça, il est vraisemblable que la folie de l'un attirait en l'autre sa folie.
Elle aimait tant cet homme. Elle se sentait tellement proche de lui que sa vision en était déformée. Comme si elle avait pressé son nez sur un miroir en essayant de se regarder dans ses propres yeux. Elle sentait les lignes de son cou et son profil sculpté comme des bouffées de vent qui auraient balayé sa lucidité. Elle sentait sa propre substance s'affiner et s'amenuiser, comme ces tiges de verre filet qui s'allongent et s'effilent jusqu'à n'être plus qu'une illusion chatoyante. Elle se sentait toute petite et extatique. Alabama était amoureuse.
Il ne recherchait pas que l'art, il recherchait vraiment une façon de changer la vie. Et on le sent dans leurs lettres que cette vie-là, cette vie américaine de 1917-18 ne leur va pas et qu'ils vont inventer autre chose, une nouvelle génération, cette fameuse génération perdue. Mmh.
Ils vont fuir l'Amérique de la Prohibition pour venir en Europe.
Oui, oui, oui. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il faut dire que parfois on a du mal à se représenter que les États-Unis de cette époque, c'est un pays très, très, très puritain. Où tout le monde est vraiment surveillé dans ses moindres actes. Bien sûr, la prohibition étant qu'un, comment dire, une sorte de symptôme secondaire hein, de la mentalité. Et c'est vrai que les jeunes gens, les jeunes artistes fuient quand même en nombre vers la France, vers Paris. Et parce que le Paris aussi de ces années-là, c'est vraiment le Paris des peintres espagnols, le Paris des ballets russes. Enfin, c'est vraiment une ville cosmopolite où ces jeunes gens trouvent un peu ce qui leur manque là-bas.
Mais au départ, il ne savait pas qu'il se fixerait sur la côte.
Non, mais il y a aussi un autre élément qui est capital, c'est la valeur du dollar, qui est 25 fois le franc. Donc, lorsqu'ils arrivent en France, alors qu'ils payent un loyer de $300 à Great Neck, ils ont une maison pour quelques poignées de francs qui correspondent environ à $10.
Xavier Girard.
Avec un jardinier, un majordome, une nounou, ils auraient pu acheter 4 voitures de sport avec le prix d'une nouvelle de Scott. Donc il y a cette facilité, cette légèreté, cet éclat. Et puis peut-être aussi cet exotisme. Ils ne vont pas sur une plage normande, en Bretagne, non, ils vont sur la Côte d'Azur, qui alors n'est pas du tout celle que nous connaissons aujourd'hui. Pratiquement les plages, pratiquement désertes, les pionniers de cette Côte d'Azur sont les Murphy, et c'est aussi après la guerre.
Ils vont la créer également,
alors,
cette
ils la
Côte d'Azur.
Ils créent la Côte d'Azur estivale.
Oui, oui.
La Côte d'Azur hivernale a été créée au XVIIIe siècle pour des raisons médicales, elle s'est développée au XIXe siècle avec ses grands hôtels, mais c'était là une Côte d'Azur où l'on allait mourir en quelque sorte. Alors que les Murphy, quand ils arrivent à l'hôtel du Cap à Antibes et qu'ils font construire la Villa America, ils viennent là avec une toute autre idée en tête, être aussi heureux qu'il est possible quand on est un Américain en Europe. Aller au casino, danser, boire, aller à Monte Carlo, aller sur le yacht des Murphy et jouir de la plage, du soleil et des amis qui viennent des États-Unis, d'Italie, d'Angleterre, écrivains, peintres, cinéastes. Ils vont sur la plage de Zelda et de Scott. Qu'y a-t-il ? Il y a Picasso, il y a Rodolphe Valentino, il y a Hemingway, il y a Rex Ingram et des starlettes d'Hollywood. Il fallait les supporter, Scott et Zelda. Scott avait une attitude, dirait-on aujourd'hui, grandement infantile dès qu'il avait bu, ou dès que l'on ne lui prêtait pas suffisamment d'attention. Et les Murphy, qui étaient légèrement plus âgés qu'eux, une dizaine d'années, les avaient pris un peu sous leur aile et les protégeaient. Et notamment protéger Scott contre son alcoolisme et Zelda contre quelque chose que Sarah Murphy a très vite compris, quelque chose qui va se développer en schizophrénie au cours des années 20. Sarah observe l'espèce de fixité qu'il y avait dans le regard de Zelda.
Très immobile.
Et cette façon, au fond aujourd'hui on dirait que Zelda était un casse-cou incroyable. Elle provoquait les situations les plus inconfortables, les plus d'insécurité, les plus évidentes. Il y a comme une recherche, et c'est ce qui nous rend très, très actuel. Il y a une recherche constamment de l'événement. Un événement qui dénouerait les angoisses, qui dénouerait, comme par magie, les blocages terribles auxquels ces deux-là sont confrontés.
Dans le roman Tendre et la nuit, il y a de nombreuses fêtes, comme celles auxquelles les Fitzgerald ont pu participer sur la Côte d'Azur. Et ces fêtes, en particulier dans le début du roman, ressemblent étonnamment à celles que pouvaient donner leurs amis esthètes américains, les Murphy. Donc des fêtes chic, extrêmement bien organisées, mais qui souvent dissimulent des failles.
Parce que la fête n'est qu'un masque dans leur vie.
Oui, la fête dissimule des ambitions impossibles, des échecs artistiques, pour l'un comme pour l'autre souvent. La fête est sauvage et elle trahit des désordres intérieurs profond.
Je veux une fête horrible, dit Nick.
Donc toutes sortes de fêtes apparaissent dans ses romans, et très certainement d'entendre la nuit, elle semble parfaite. Il semble que tout est maîtrisé dans le début du roman et à première vue pour les invités. Et puis finalement, on devine que derrière la fête, il y a des choses horribles. Derrière les paillettes, il y a l'horreur.
Je ne te demande pas de m'aimer. Je te demande de ne pas forcer la porte de cet endroit où je suis enfin seule. Loin de tout ce rouge, de tout ce sang.
I was just celebrating.
Celebrating? Look at you, you look disgusting.
What do you want me to do about it, Jimmy? What am I supposed to do?
Did I tell you to have that baby? Did I tell you to have that son? That goddamn baby? No, I didn't tell you. You had it. Now you have it. Now keep it.
Quand on demandait à Zelda pourquoi elle-même buvait, elle disait « Je bois parce que le monde est un chaos, et quand je bois, je suis chaotique moi-même. »
Get it. I'm not going through this.
Okay, you said it. You want that.
Not what I want, it's the way it is.
It is not what you want.
It is not what I want.
Les couples alcooliques sont, s'éteignent mutuellement. Trouve dans le gin, dans le cas de Scott et Zelda. Zelda, c'était plutôt le chablis, ou le grave. trouve dans l'alcool quelque chose du ruissellement qu'ils ne voudraient pas voir tarir entre eux. Leur alcoolisme les réunit dans l'effroi, dans une espèce de bonheur tragique, mais cet alcoolisme-là, d'une certaine façon, continue à irriguer leur relation.
Alors ce rêve de bonheur sera un peu brisé également dans ce lieu, ce mirage, ce décor de cinéma, puisque c'est en 1924 que Zelda rencontre à cette aventure avec cet aviateur, et ça va dévaster Scott, enfin du moins il le prétend.
On peut dire que cette aventure n'est qu'un... Par moments, on se demande si elle est vraiment réelle.
Un révélateur
Elle est simplement un révélateur de l'angoisse de l'un et de l'autre, du sentiment qu'ils sont en train de danser sur un volcan. Dans le cas de Zelda, il est évident que les succès rapides de Scott l'ont prise de court, en fait, l'ont prise de vitesse. Elle a dû comprendre assez tôt qu'elle ne parviendrait pas dans le couple à exister comme elle souhaitait. Exister en tant qu'artiste, en tant qu'entité, puissance dans ce couple. Et cela, la vitesse avec laquelle Scott rencontre le succès, l'argent facile, les grandes villas, les réceptions, le monde constamment présent, a accéléré évidemment la crise. Et puis aussi les oscillations de la schizophrénie qui, alors, prend un tour violent. Or, là, en 24, c'est le moment où la maladie choisit de prospérer.
C'est le moment où les choses basculent.
Oui, parce que peut-être aussi ces vacances sur la côte qui durent longtemps, ce voyage de noces qui n'en finit pas, a quelque chose d'assez effroyable. Être dans cette sorte de loisir vide, pour Zelda, c'est effroyable. Elle n'a pas de projet, alors elle est sans perspective. Scott écrit des nouvelles, est plongé toute la journée dans son roman. Il y a Scotty qui est né. Elle ne s'intéresse absolument pas à la maternité. Donc, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste ce formidable devenir qu'est la maladie. Il y a quelque chose de désespérant dans ce ciel bleu, intensément bleu. Monet le disait à Bordighera quand il a séjourné dans les années 1880. C'est effrayant, ce bleu, cette mer tellement douce, ces odeurs de jasmin. C'est effroyable. C'est à vous rendre fou.
Ce qu'elle a fait quand elle a essayé de tenir à peu près sa place par rapport à lui. Elle a d'abord essayé d'écrire, mais bon, elle écrit, elle sait écrire, mais ce n'est pas très extraordinaire ce qu'elle fait. Mais elle a tout de suite,
Tournier,
très vite, commencé à faire de la danse. Et je sais que c'est cette volonté de faire de la danse est quelque chose qui existait complètement chez elle. Scotty m'a dit un jour que sa mère avait malheureusement pour elle tous les dons, mais qu'elle était incapable d'aller plus loin que le départ. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas travailler. Mais là, pour la danse, elle a vraiment travaillé, et c'est la souffrance qui a commencé. Parce que elle s'est tenue les pieds, il fallait qu'elle attache ses pieds, etc. Il fallait qu'elle soit complètement déchirée sur le plan des muscles, etc. Parce que c'est un travail énorme, d'autant plus qu'elle a commencé un peu tard, puisqu'elle est arrivée chez Madame Egorova, elle avait déjà 24 ans, 25 ans, quoi. Mais ce qui est frappant, et c'est ça qui m'étonne, c'est que elle a été assez loin dans cette volonté de danser, parce que le San Carlo de Naples, qui n'est pas n'importe quel opéra de province, lui avait demandé de venir danser, l'acceptait dans la troupe et lui proposait même des rôles importants. Elle n'a pas voulu y aller parce qu'elle était déjà fragile, c'était en 1929, donc c'est le moment où elle va souffrir. Mais pendant toute cette époque-là, elle était déjà souffrante.
Elle n'était que nerfs et tendons. Réussir était devenue une obsession. Elle travaillait jusqu'au moment où elle se sentait comme un cheval éventré par les cornes du taureau dans l'arène et piétinant ses entrailles.
Scott a été l'homme de sa vie, et pendant les deux dernières années qu'ils ont passées à Paris, il sortait tous les soirs, il buvait tant qu'il pouvait, il était ivre mort, les chauffeurs de taxi étaient obligés de le remonter dans l'escalier, enfin, etc. C'était l'horreur absolue, et elle était perdue. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est raccrochée tant qu'elle a pu à ce qui était pour elle une image de la beauté.
Et elle a éprouvé une sorte de passion pour cette femme,
oui,
avec laquelle elle prenait ses cours de danse.
Exactement. Elle dit à Scott, je n'avais plus pour toi pour t'aimer, donc j'ai aimé Madame Egorova. Mais elle l'aimait dans une espèce de passion purement esthétique. En fait, elle disait, cette femme a des images de beauté dans son œil, et je voudrais réussir à rendre ces images véritables. Je crois qu'elle a passé son temps, qu'elle a cherché sans arrêt à être l'égale de Scott quand elle n'a plus pu danser parce qu'il était trop tard et qu'elle était rentrée en Amérique. À ce moment-là, elle a fait de la peinture. Et elle était, là aussi, c'est quand on connaît les images de ces tableaux, on se demande comment elle a fait ça, alors qu'elle a pris à peine quelques leçons de peinture quand elle était en Italie, au moment de Gatsby, c'est-à-dire en 1923, 24, 25, enfin, je veux dire. Et là, tous ces tableaux sont loin d'être intéressants, mais les tableaux qui se rapportent à la danse sont aussi des tableaux de souffrance, c'est-à-dire que les corps sont très allongés, les pieds sont énormes, les mains sont énormes, on sent que les danseurs souffrent terriblement, et elle disait elle-même, c'est ce que nous éprouvions quand nous dansions.
Des gouaches qui représentent Paris ou New York, de façon réaliste, mais avec, en même temps, par exemple, dans les rues de New York, il y a une représentation de Times Square. On voit des automobiles aux formes plutôt épurées, des rues qui tournent. Dans une représentation de la 5e avenue, il y a un décor avec comme des restes de passages de gens chics, des gants blancs, des chapeaux de forme, des cannes, sans personnage pratiquement. Le décor est là et en même temps, il y a une déformation. On reconnaît par exemple, il y a une gouache avec Notre-Dame de Paris. La cathédrale est reconnaissable. Et en même temps, les deux voitures à cheval qui sont sur le devant du tableau présente des chevaux déformés, très particuliers. Et puis, il y a une envolée de petits parapluies tout à fait surréalistes.
On a l'impression, Par moments que le décor bascule, comme s'il y avait une sorte de tournis.
Elle peint parfois dans son hôpital psychiatrique.
Je crois que chez Zelda, il y a quelque chose qui serait à mi-chemin entre Béatrice Dalle et John Seberg. C'est-à-dire que de John Seberg, elle a le désespoir, et peut-être l'ennui, et peut-être les choses qui très rapidement l'ennuient, mais qui l'ennuient pourquoi ? Parce que...
Xavier Girard.
Elle ne les maîtrise pas. Parce qu'elle ne parvient pas à exister ni comme écrivain, ni comme danseuse, ni comme peintre, ni comme femme de Scott, ni comme... Star du monde de la littérature et du cinéma qu'il fréquente, ni comme fille du président de la cour de l'Alabama. Elle n'a, comme le dit Scott de lui-même, pour elle, que l'autorité de l'échec. Et puis, le côté Béatrice Dalle, c'est le côté provocateur, c'est le côté amoureuse des crises, des failles, des moments de dégringolade les plus complets. Quand elle veut se suicider, quand elle emmène Scott aux abords d'une voie ferrée pour y précipiter la petite Ford et être écrabouillée par le train. Ce n'est pas seulement un suicide au sens fascination de la mort, que quelque chose se passe dont elle aurait la maîtrise, dont elle serait l'actrice principale. Au fond, il y a chez Zelda l'idée qu'elle n'est pas l'actrice de sa vie. Et il n'y a d'autre issue pour elle que de s'affirmer en rompant. Sauf qu'elle n'a pas la capacité de transformer cette rupture en une œuvre, en quelque chose de consistant. Elle est constamment confrontée à l'inconsistance de sa vie. Et ce qui est fascinant dans le couple, c'est que Scott a fait de cette inconsistance le sujet de son œuvre. Et sans doute s'est-elle sentie, effectivement, non pas dépossédée, mais un peu plus inconsistante encore, dès lors que toute la substance de sa vie était en quelque sorte transférée, transformée, métaphorisée dans les textes de Scott.
Dans les années 30, après son effondrement psychologique, elle dit « Je suis ce petit poisson qui nage sous le requin et qui vit de ses restes. C'est ce que je suis. »
Scott n'a pas mesuré, peut-être qu'elle ne lui a pas dit clairement d'ailleurs, à quel point Zelda voulait elle-même être une artiste, à quel point elle voulait elle-même écrire.
Gilles Leroy.
Ce jeune homme par ailleurs si émancipé, enfin qui recherche la libération, l'émancipation, tout à coup se comporte comme un mari assez banal, qui pense, banal pour l'époque, qui pense qu'il est propriétaire et de sa femme et des écrits de sa femme. Et c'est vrai qu'il y aura 2-3 moments malheureux où tout à coup la signature de Zelda disparaît. Alors aujourd'hui ça devient compliqué d'ailleurs parce qu'on ne sait pas lorsqu'on retrouve des nouvelles où visiblement il y a la patte de Zelda, on peut pas en être sûr. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment co-signées. Mais après on sait qu'il y a des nouvelles signées uniquement Fitzgerald qui sont des nouvelles écrites par Zelda ou en tout cas largement co-écrites quoi. Donc oui, il y a un vrai problème.
Elle acheta des roses jaunes avec son argent, des roses comme un brocart satin empire, des lilas blancs et des tulipes roses comme des fleurs cristallisées de confiseur. Et les roses d'un rouge sombre comme un poème de Villon, noir et velouté comme l'aile d'un insecte. Des hortensias d'un bleu froid, propre comme un mur fraîchement chaulé. Les gouttes cristallines du muguet, un vase de capucine qui ressemblait à du cuivre battu, des anémones et des spiègles tulipes perroquets qui égratignaient l'air de leurs collerettes dentelées, et les voluptueuses circonvolutions tortueuses des violettes de Parme. Elle acheta des œillets jaunes citron qui sentaient le sucre d'orge, et des roses de jardin pourpres comme la gelée de framboise, et toutes les espèces de fleurs blanches que le fleuriste savait cultiver. Elle donna à madame des gardénias qui ressemblaient à des gants de chevreau blancs, et des myosotis de la Madeleine, des branches de glaïeul menaçants, et de doux ronronnements réguliers de tulipes noires. Elle acheta des fleurs qui ressemblaient à des salades et des fleurs qui ressemblaient à des fruits. Des jonquilles et des narcisses, des coquelicots et des coucous, et des fleurs brillantes qui avaient les qualités carnivores de Van Gogh.
Mais il va très loin, Scott, dans cette naïveté, il fait ça vraiment avec une sorte d'ingénuité. C'est-à-dire que pour son deuxième roman, il a beaucoup de mal d'ailleurs, il patine un peu, et un jour, pour rassurer son éditeur, il va dîner avec lui dans un restaurant de Manhattan. Il apporte 3 cahiers, et ce sont les cahiers intimes les carnets intimes de Zelda. Il dit, bah voilà, tiens, regarde, ça va être le sujet de mon prochain roman, ça va être la matière de mon prochain roman.
Mais c'est cruel tout de même.
Il a l'air de dire que tout ça est un jeu, quoi. Que tout ça est un jeu à deux, une folie à deux. Et le problème, c'est que ça va se compliquer dans les années 30, enfin en 32, lorsque elle aura écrit son roman en cachette, quand même, de lui, pour le coup, puisqu'il lui a expliqué déjà qu'il ne souhaitait pas qu'elle écrive.
Accordez-moi cette valse,
l'unique roman de Zelda.
C'est un roman assez lourd, non, assez pesant.
Ah, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est loin de là, mais il faut savoir que c'est écrit dans un hôpital psychiatrique quand même. Donc je trouve que pour quelqu'un qu'on disait schizophrène, elle est quand même assez construite, Zelda, parce qu'arriver à écrire un roman en 6 semaines et qui tienne la route quand même, parce qu'il tient tout à fait la route, son roman, on sent à certains dérapages, une abondance de métaphores étranges. Que c'est quelqu'un qui a parfois des moments de trouble, mais bon, je trouve qu'il se lit, ce roman, quand même. Mais bon, ça va être une guerre, et ça va être l'origine de la rupture définitive. C'est-à-dire que c'est une guerre sans merci, là, que Scott va livrer, parce que lorsqu'il apprend qu'elle a écrit ça, que les psychiatres l'ont laissé écrire alors qu'il leur avait interdit de la laisser faire, qu'elle a envoyé le manuscrit à son éditeur, à lui, Scott, et que le manuscrit est accepté. Là, c'est vraiment la guerre. C'est-à-dire qu'il essaie d'abord d'en empêcher la publication, puis il essaie de s'en attribuer en grande partie la paternité en disant qu'il le relie, c'est un peu pitoyable.
Il le corrige aussi. Il apporte des corrections.
C'est un peu dur, quoi. C'est vrai.
Il lui dit : tu es un écrivain de troisième zone, une danseuse classique de troisième zone. À quoi elle répondra : il me semble que ton attaque est plutôt violente contre un talent de troisième zone. En réalité, la vie des Fitzgerald suit le fonctionnement, le déroulement de la société américaine, puisqu'ils sont un couple très en vue en 1920, et puis finalement, à la fin de la décennie, Zelda s'écroule psychiquement. Elle est internée en Suisse tout d'abord en 1930, donc en 1929 il y a le crack de Wall Street, et d'une certaine façon en même temps Zelda s'effondre psychologiquement.
Blessé, comme on peut dire un animal blessé, quoi, qui a été une des femmes les plus célèbres du monde, les plus belles et les plus spirituelles, et qui 20 ans plus tard est une sorte d'épave, aussi bien physiquement que psychologiquement.
Scott ne s'occupait plus d'elle du tout. Les deux dernières années qu'ils ont passées à Paris étaient des années difficiles. Bon, ils étaient vraiment complètement étrangers l'un à l'autre. Scott s'est beaucoup servi de Zelda dans Tendre et la nuit, parce que c'est le personnage principal du roman, et que bon, il s'est servi de ses lettres, etc. Et ce qui fait que la lecture de Vendre la nuit a été extrêmement grave pour elle, parce qu'elle a eu une rechute extrêmement grave. Elle est devenue autiste, elle ne mangeait plus, on a cru qu'elle allait se suicider, enfin, etc., quoi. Et puis peu à peu, elle s'est acceptée. Et elle a accepté Tendre la nuit parce qu'elle a été obligée de reconnaître que le livre était un très beau livre, et que c'était remarquablement écrit, et qu'elle ne pouvait qu'admirer le travail de son mari. À partir du moment où Zelda est vraiment souffrante, Scott recommence à l'aimer complètement et jusqu'au bout. C'est-à-dire que leur amour s'est séparé manifestement, ils ne vivaient plus ensemble. Bon, Scott, dans les deux dernières années de sa vie à Hollywood, avait rencontré une autre jeune femme qui s'est occupée de lui beaucoup. Bon, mais sans arrêt, Zelda était là, enfin, je veux dire. Elle passait son temps à aller d'une clinique à l'autre, avec une espèce de lucidité extraordinaire qui appartient aux gens qui sont schizophrènes, finalement, bon, et qui savent que tout d'un coup qu'il faut partir aller voir les médecins, que tout d'un coup l'état est tel qu'on fait sa petite valise, on appelle un taxi, on prend le train et on va à l'hôpital. C'est ça qui est frappant chez elle.
Mais qu'est-ce qui a été tellement douloureux, Jacques Tournier, pour Zelda dans la lecture de Tendre et la nuit? C'est de se voir transposée dans le personnage de Nicole, c'est de voir le réalisme avec lequel Scott l'a dépeint, c'est de se sentir dépossédée de ce qu'elle est, de son monde intérieur. Pourquoi cette réaction aussi violente?
Parce qu'elle ne savait pas du tout que dans ce roman-là, elle serait aussi présente et aussi complètement présente avec toutes ses folies, avec toutes ses dépressions, avec le moment où elle veut faire un accident de voiture, le moment où elle abandonne ses enfants, et elle va sur un manège, enfin, etc. Et il s'est servi des lettres qu'elle lui écrivait, il s'est servi de tout ça. Bon, on peut dire qu'il s'est beaucoup inspiré d'elle et qui s'est beaucoup, on pourrait dire, servi d'elle. Mais enfin bon, même dans cette nouvelle, c'est toujours Zelda, avec des prénoms différents, mais c'est toujours Zelda.
Mais elle s'est sentie vampirisée tout de même un petit peu.
Oui, de certaines façons. Est-ce que c'est ça uniquement? Je pense que ça va plus loin. C'est tout d'un coup de se voir elle-même.
Dans un miroir.
Comme il l'a vu, lui, elle ne savait pas à ce point-là, peut-être, qu'elle avait été aussi malade. Dans cette clinique, en dehors de Nicole, qui est soignée, dont on parle, etc., il y a une femme dans une chambre couverte d'eczéma, qui est une Américaine de 30 ans, peintre, et qui n'a pas de nom, qu'on essaye de soigner, et qui se plaint. C'est elle qui dit « Pourquoi moi ?» etc., etc. Ça, c'est Zelda, incontestablement. Ça n'est plus ni Nicole ni rien, c'est Zelda. C'est Zelda à Prangin. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'à la lecture de ce chapitre-là, tout d'un coup, elle a complètement perdu conscience et elle s'est retirée en elle-même et elle n'a pas supporté, quoi. Les photos qu'on a d'elle après Prangin, bon, c'est quelqu'un d'autre. Elle n'a plus du tout le même visage, elle n'a plus cette espèce de jeunesse extraordinaire qu'elle avait avant, etc. Bon, c'est frappant. On entendait Scott qui lui criait dans les gouttières, tu es chez les fous, sors, dépêche-toi, etc. Elle s'imaginait des choses incroyables, où elle entendait Scott crier, j'ai tué la femme de mes livres. C'était vraiment des hallucinations qu'elle avait complètement comme ça.
Il y a comme ça 2-3 années de terrible cruauté entre les deux, de violence, hein, de violence. Et en même temps, ce qui se passe, c'est que donc son livre, Accordez-moi cette valse, sort avant Tendre et la nuit. Elle l'a écrit en fait avant Scott, et c'est ça qui met Scott terriblement en colère. C'est que pour lui, elle lui a piqué son sujet, ni plus ni moins. Elle l'a devancé, quoi. Elle raconte l'histoire, notamment l'histoire de l'aviateur que lui a à peine transposé. C'est comme si elle lui avait coupé l'herbe sous le pied et elle lui a volé son sujet. Et on est au cœur de leur de la violence de leur problème, enfin de leur couple. C'est que pourquoi cette matière appartiendrait plus à Scott qu'à Zelda.
Lettre de Zelda à Scott, printemps 1919.
J'ai passé la journée au cimetière de Montgomery, qui n'est pas vraiment un cimetière, tu le sais, à essayer d'ouvrir la grille d'un caveau creusé au flanc de la colline. Elle était humide et rouillée, couverte d'étranges fleurs d'un bleu délavé, larmoyante, qui avait peut-être poussé dans l'œil vide du mort, visqueuse au toucher, d'une odeur maladive. Les garçons voulaient que j'y entre pour éprouver mes nerfs. La nuit tombait, et je voulais vraiment ressentir ce mort-là. William Redford, 1864. Pourquoi les tombes donneraient-elles le sentiment de la vanité de l'existence ? Je ne vois rien de désespérant au fait d'avoir été vivant. Toutes ces colonnes tronquées, ces mains jointes, ces colombes, ces anges, parlent d'histoire d'amour. Et je crois que dans une centaine d'années, je serai très heureuse d'entendre des jeunes gens discuter à l'infini pour savoir si j'avais les yeux bleus ou marrons. Ni l'un ni l'autre, bien sûr. J'espère que ma tombe fera penser à des temps anciens, très anciens. N'est-ce pas étrange que dans l'allée réservée aux soldats confédérés, il y ait deux ou trois tombes qui évoquent des amants morts, des amours mortes, alors qu'elles sont exactement comme les autres, couvertes de la même mousse roussie? C'est si beau, si terriblement beau, ces anciens morts. Nous mourrons ensemble, je le sais, mon amour.
Elle a une très belle écriture dans ses lettres. Je trouve que tout son talent d'écriture s'est concentré dans les lettres.
Absolument. Parce que je pense qu'elle était, comme toujours d'ailleurs, c'est qu'elle était incapable d'approfondir les choses.
Jacques Tournier.
Et ce qui lui venait dans les lettres, c'est que c'était au fil de la plume, comme ça, les images, etc., qui n'en finissaient pas, des choses superbes les unes après les autres, comme ça, parce que c'était rapide. Finalement, c'était une femme qui avait besoin d'aller vite. Quand elle a écrit « Accordez-moi cette valse », elle a mis du temps. Elle l'a quand même écrit incroyablement vite. Elle a écrit ce roman qui est gros en 6 mois. Et elle était dans un asile psychiatrique dans les derniers temps, enfin, je veux dire. Mais dans les lettres, elle se laisse aller complètement à une inspiration qui n'a plus aucune importance. Elle fait des images très extraordinaires, des métaphores qui sont superbes. Elle parle du ciel comme une noria, enfin, etc. Des choses très étonnantes. Il y a un moment où elle dit, quand quelqu'un entre dans votre cerveau et traverse, c'est comme un animal traversant les Alpes. Enfin, il y a des choses comme ça qui lui viennent, on ne sait pas pourquoi, et qui sont magnifiques. Enfin. Et il y a des lettres aussi, des lettres qui sont déchirantes, qui sont tout d'un coup, quand elle se rend compte de l'état dans lequel elle est. Quoi.
Vous aviez une lettre tout à l'heure que vous vouliez nous lire.
Il y a une des lettres que je trouve très très belle, qui est une lettre qu'elle a écrite quand elle était vraiment à Townsend, elle était... Et c'est le moment où elle a été autiste complètement, où elle ne mangeait plus, on l'a surveillée la nuit pour être sûr qu'elle ne se suicide pas, enfin, etc., etc.
Elle a fait d'ailleurs une tentative de suicide.
Elle a fait deux tentatives de suicide. Elle a voulu se pendre une fois et elle a voulu se passer sous un train une autre fois, ouais. Et là, à un moment, elle, quand elle commence à se sortir de cet état, elle écrit à Scott cette chose très extraordinaire. Comme tu es lentement devenu un personnage mythique au cours des longues années qui viennent de s'écouler depuis 2 semaines, je veux te parler de moi. Premièrement, je suis seul. Deuxièmement, je n'ai ni parents ni amis et je voudrais connaître un guerrier de Malaisie. Troisièmement, je ne cuisine pas, je ne couds pas, je ne fais aucun bruit dans cette maison. Le Shepherd Hospital est situé quelque part dans l'arrière-pays de la conscience humaine, et l'on peut m'y rencontrer à n'importe quel moment entre l'aube de la conscience et le début de la vieillesse. Chérie, la vie est difficile, il y a tellement de problèmes. Le premier, le problème de comment rester ici, le second, le problème de comment sortir d'ici.
Et à la fin, il y a sa mort à elle, dans l'incendie de l'hôpital psychiatrique d'Asheville, où elle était venue de son propre gré, donc. Hein, elle se sentait pas bien, elle était venue se reposer là, et il se trouve qu'elle était au dernier étage du bâtiment de l'aile psychiatrique, et que ce dernier étage était bouclé, était cadenassé la nuit, et que donc les étaient 8 patientes qui n'ont pas pu sortir, et qui ont péri donc dans les flammes de l'incendie.
Et on a identifié Zelda grâce à un chausson que l'on a, voilà, qui était le sien. Donc il n'est rien resté d'elle.
Non.
Et le critique italien Pietro Citati dira de cette fin terrible: comme dans un conte de Grimm ou de Perrault, le cadavre de Zelda fut reconnu grâce à une pantoufle carbonisée. C'était une histoire qui lui aurait bien plu, comme à son mari. Il ne restait rien d'elle, il ne reste rien de nous, qu'une pantoufle presque réduite en cendres.
La mort de Zelda, un peu comme toute sa vie, un peu comme toute la vie de l'un et de l'autre, elle est programmée en fond. Le feu, l'alcool, ça brûle. La schizophrénie, ça brûle. La maison qui s'appelait La Paix, où ils vivaient pas très loin de New York, a brûlé. Et ils se sont eux-mêmes brûlés l'un à l'autre. Scott s'est aussi brûlé à la littérature qu'à l'alcool. Et elle s'est brûlée à cette perspective d'échec qui a occupé sa vie tout entière. Alors, c'est un incendie dans les cuisines de l'hôpital qui s'est engouffré dans le monte-plat et qui l'a brûlé. Je crois que toute espèce de surinterprétation de cette mort est sans grand intérêt. Elle est simplement soudaine, imprévisible et programmée. Voilà, il y a quelque chose aussi de très troublant dans ce feu qui purifie. Or, la grande affaire de Zelda, c'est peut-être de ne pas avoir su trouver en elle la voix impure qui lui aurait peut-être permis d'exister, d'être artiste. Elle a des ambitions qu'elle place toujours au-delà de ses capacités. Elle veut devenir danseuse étoile alors qu'elle approche les 30 ans. Elle veut devenir écrivain alors qu'elle vit vraiment à côté de celui à côté de qui il ne faudrait pas vivre pour devenir écrivain. Aussi, dans ce feu de la mort de Zelda, il y a comme, évidemment, une sorte de revanche effroyable de la réalité sur cette vie faite de pièces et de morceaux, et qui tout à coup est réunie dans la flamme.
Zelda, une émission de Françoise Esteb, avec Elisabeth Bouzon-Villers, maître de conférence à l'Université de Saint-Étienne, auteur de Francis Scott Fitzgerald aux éditions Belin, Xavier Girard, critique d'art et historien de l'art moderne, auteur de l'ouvrage Les années Fitzgerald aux éditions Assouline, Gilles Leroy, écrivain, auteur d'Alababa Song aux éditions Mercure de France, Jacques Tournier, traducteur, écrivain, auteur de Zelda aux éditions Grasset. Texte lu par Yasmine Modestine. Mixage Michel Mestre. Réalisation Isabelle Huel.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcast, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et demain, l'autre moitié de la paire, le grand écrivain amoureux, le mari de Zelda, Francis Scott Fitzgerald. Mais dans un instant, c'est le journal, juste avant les passeurs de science.